France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, des mathématiques à la résistance, le cas Albert Lotman. La vie d'Albert Lotman fut brève et intense. Né le 8 février 1908, ce normalien agrégé de philosophie et docteur ès lettres fut successivement professeur, militaire, prisonnier, évadé, résistant, chef de réseau, membre de l'armée secrète. Finalement arrêté à Toulouse par la Gestapo le 15 mai 1944, il fut exécuté sommairement le 1er août de la même année, à l'âge de 36 ans, au camp de Souges, près de Bordeaux, 27 jours seulement avant la libération de la ville. Qui était cet homme, ami proche de Jean Carrillès, exécuté à Arras quelques mois avant lui? Quels furent ses travaux, tous menés à la croisée des mathématiques, de la physique et de la philosophie? Et quel fut son rôle dans la résistance? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir trois invités. D'abord vous, Alia Aglan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, spécialiste de l'histoire de la résistance et professeure à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'ai le plaisir également de recevoir Baptiste Mélès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe des mathématiques, chargé de recherche au CNRS, rattaché aux archives Henri Poincaré à Nancy. Et enfin, Jean-Jacques Cessignast, habitué de cette émission, philosophe. Philosophe mathématicien même, mais pas fusillé, enfin, pas encore. Président de la Société des Amis de Jean Carrillès, qui a organisé un colloque sur Albert Lotman, qui s'est tenu à Paris en octobre 2021. Un colloque qui a engendré un livre que j'ai sous les yeux, qui s'intitule Albert Lotman, philosophe des mathématiques à la résistance, sous la direction de Christophe Eckes, Frédéric Jaec, Baptiste Mélès et vous-même, Jean-Jacques Cessignast. Alors, Albert Lotman, il est assez peu connu du grand public. Est-ce que on peut rappeler sa vie, sa biographie? J'ai donné sa date de naissance, 8 février 1908. Quel est son milieu? Qui est-il? Quelle est sa famille?
Alors il vient d'une famille dont le père Samy Lotman a été naturalisé. C'est un ancien combattant de la Première Guerre mondiale qui a été très blessé. D'une famille qui visiblement a tenu pour extrêmement important la formation scientifique et républicaine. Donc je pourrais dire que c'est une famille qui est devenue une famille républicaine et patriote. Et d'ailleurs, dans l'engagement d'Albert Lotman, on voit très bien que pacifiste comme cette génération normalien, il fait quand même sa préparation militaire supérieure. Il se dérobe pas à ses engagements.
Il devient officier.
Exactement, dans l'artillerie, enfin de réserve. Et ensuite, il est mobilisé. Il fait la guerre. Il est prisonnier de guerre et il s'évade le plus tôt possible. Mais il passe quand même un certain temps en Oflag. Où il va, alors là on a quelques archives là-dessus, où il va participer à ses universités en captivité. Donc je dirais que c'est une famille de scientifiques engagés, patriotes, qui ne se sont pas dérobés aux engagements qui ont été les leurs sur le plan militaire et politique.
Alors dans ce camp de prisonniers, il y avait beaucoup d'officiers, 5000 je crois, parmi eux des universitaires, des professeurs, des instituteurs, et donc ils avaient en effet monté une sorte d'université locale, et la foule, si j'ose dire, se précipitait au cours d'Albert Lotman, qui était pourtant pas les plus faciles à suivre.
Ben, je crois que c'est, en tous les cas, c'est ce qui est resté dans les témoignages, on a des documents là-dessus, mais ces universités en captivité, elles avaient l'autorisation du régime de Vichy, et c'était pas du tout clandestin, c'était au contraire pour ne pas faire perdre leur temps aux officiers qui, prisonniers, n'étaient pas astreints au travail. Donc ils avaient du temps libre, et peut-être pour les empêcher de s'évader, on devait les occuper, mais en tous les cas, le gouvernement de Vichy validait les enseignements, donc en sciences, en lettres, en droit, et ces universités de captivité étaient quand même assez répandues, et effectivement, ça attirait beaucoup d'audience.
Mais la devise d'Albert Lotman, c'était un officier a le devoir de s'évader. Alors, est-ce que vous pouvez raconter son évasion qui est quand même assez extraordinaire par un tunnel de 80 mètres de long, alors que lui-même souffrait de dyspraxie?
Ils sont une bonne vingtaine hein, à s'évader. Je crois que c'est des évasions qui sont préparées de longue date, puisqu'il faut creuser des tunnels. Je me souviens que la première tentative n'a pas réussi, et à la deuxième, ils ont réussi à s'évader. Certains ont été repris quand même, parce qu'en fait, s'évader, c'est pas le tout, c'est qu'ensuite, il faut marcher la nuit et se reposer le jour. C'est ça, une bonne évasion.
Et il faut avoir des vêtements civils.
Et ben, en général, on s'en procure. Alors, quand il y a une aide, mais là, dans ce que j'ai lu, on ne sait pas s'il y a eu des complicités à l'extérieur. Mais en tous les cas, oui, il faut défier la faim, le froid, se faire reprendre.
Il faut parler allemand.
Bah oui. Il faut surtout éviter de rencontrer trop de monde.
Alors, on reviendra sur les activités d'Albert Lotman dans la résistance, mais est-ce qu'on peut dire quel a été son parcours scolaire comme lycéen au lycée Condorcet à Paris?
Oui, il a fait une.
Jean-Jacques Cessignac.
Il a fait des études de philosophie, une prépa, comme tout le monde.
Comme tout le monde, oui.
Il était. On a retrouvé, alors je ne sais pas si tu te souviens, au lycée, des bulletins trimestriels de Lotman, qui étaient assez élogieux, bien sûr, sur ses capacités intellectuelles. Mais il faut comprendre ce que moi, j'ai du mal à comprendre, et ce que j'essaye de faire aussi, c'est que Lotman est d'abord et avant tout un philosophe littéraire, un philosophe qui a fait des études de philosophie, et qui l'a réussi à maîtriser une quantité de mathématiques des plus compliquées, des plus difficiles. Il fréquentait les réunions Bourbaki, il dialoguait couramment avec les grands mathématiciens de son temps, et c'est un des aspects, on va peut-être y revenir, c'est un des aspects assez particuliers et original de son œuvre. Et Dieudonné fait l'éloge, il dit à la différence des autres philosophes des mathématiques, Lotman avait une connaissance très approfondie des mathématiques de son époque.
J'ai cru lire qu'il était dans la même classe que Jacques Herbrand, qui était un génie des mathématiques, qui est mort en montagne à 23 ans.
Oui, alors Herbrand était un logicien professionnel, un génie logique, qui a été dans la même turne que Lotman.
Pas dans la même classe.
Je ne vais pas développer trop sur Herbrand, mais il faut savoir que Herbrand est à la fois un très grand algébriste, qu'il a étudié l'algèbre auprès de l'école algébrique allemande, où il y a des mathématiciens extraordinaires, bien que par ailleurs pas très recommandable du point de vue de leurs engagements, et il a été aussi logicien.
Et, il est en correspondance avec Kurt Gödel, par exemple.
Oh, oui, avec bien d'autres. Il a à son actif des théorèmes très importants et très profonds en logique. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Chevalet, qui est aussi faisait partie du groupe, quand il a édité les œuvres de Herbrand, je parle de Herbrand, il dit au début que Herbrand était cet être adoré par ses collègues. C'est vrai que l'histoire de la logique en France n'a pas de chance, puisque Herbrand, qui a un accident de montagne, Cavaillès fusillé, Hamelin qui se noie, enfin d'autres.
Coutura,
qui a pas beaucoup. C'est une sorte de. Ils sont poursuivis par le destin.
Vous en tirez quelle conclusion? Bon. Quelle recommandation plutôt?
Alors maintenant, la malédiction maintenant est terminée. Parce que il y a eu les premières générations, effectivement. Coutura, Nico, Herbrand, Cavaillès et Lotman, qui sont tous morts jeunes. Et qui avaient initié ce dialogue avec toute une tradition qu'on appelle la philosophie analytique. Des auteurs comme Russell, Frege, Carnap, Wittgenstein. Mais la malédiction est terminée maintenant, puisque Jules Villemin et Gilles Gaston Granger ont vécu suffisamment longtemps pour pouvoir entraîner toute une génération ensuite d'élèves qui eux-mêmes ont pu transmettre à leur tour. Donc maintenant, il n'y a plus de risque.
Mais qu'est-ce que vous appelez la philosophie mathématique? Est-ce que c'est l'affaire des mathématiciens ou est-ce que c'est l'affaire des philosophes?
Alors c'est l'affaire des deux, parce que la philosophie mathématique, d'une part, sert à montrer quelle est la partie de philosophie qui est déjà comprise dans les mathématiques elles-mêmes. Les mathématiciens en ont conscience, parfois de façon totalement consciente, parfois de façon un peu plus confuse, sous forme de pressentiment. mais ça permet déjà aux philosophes d'aider les mathématiciennes et mathématiciens à prendre conscience des tournures de raisonnement qui leur permettent de construire les objets. Mais ça sert aussi pour la philosophie, parce que les mathématiques permettent de montrer à l'état pur ce que c'est que raisonner sur des objets. Et c'est une chose dont on a besoin de faire en philosophie aussi, ne serait-ce que dans le domaine de la métaphysique, mais pas seulement.
Oui. Vous voulez ajouter quelque chose,
oui, alors,
Jacques Saisignat ?
Bon, j'ai juste pour clarifier les choses, si je puis dire. Donc, j'ai l'habitude d'utiliser une distinction qui est faite par un logicien polonais qui parle de la petite philosophie et de la grande philosophie. Alors, la petite philosophie, c'est l'examen, je dirais, épistémologique des mécanismes par lesquels on démontre un théorème, de la façon dont on utilise toutes sortes de raisonnements. Quand on fait les mathématiques. La grande philosophie, c'est celle qui essaye de montrer qu'il y a une relation en grande profondeur entre les mathématiques et les grandes questions de la métaphysique. Je veux dire, le problème de l'existence, le problème de la finitude, le problème de la mort, tout ça sont...
Donc grand, ça veut dire profond.
Profond.
D'accord. Alors, Albert Lotman a passé l'agrégation avec Maurice Merleau-Ponty. Ensuite, il a été préparé à l'agrégation par Jean Cavaillès, auquel on a déjà consacré une émission. Et vous dites dans le livre que la mémoire d'Albert Lotman a été occultée par Jean Cavaillès, que beaucoup de gens connaissent, ce qui n'est pas le cas de Lotman. Est-ce qu'on peut expliquer cette...
Oui, je vais dire un truc, puis il faudra demander à Alia, parce qu'elle a peut-être des choses plus nuancées à dire. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Cavaillès était... reconnu, et je dirais même reconnu politiquement, même dans l'après-résistance. Et Lotman est passé un peu sous le boisseau. On a beaucoup travaillé sur Cavaillès parce que, d'une certaine manière, je dirais, c'était plus facile, entre moult guillemets, tandis que Lotman avait affaire à des objets compliqués, des objets des mathématiques à l'œuvre actuellement. La deuxième raison, c'est que... alors ça, je suis pas assez féru pour le dire. C'est qu'on a beaucoup dit que Lotman était trop proche des communistes.
Et, il était socialiste.
Comment ?
Il était socialiste.
Non, mais il n'avait...
Il était aux étudiants socialistes.
Oui, aux socialistes, mais, oui. Mais pas, ça ne voulait pas dire qu'il soutenait le fameux dicton « la fin justifie les moyens ». Je pense que ça a joué, si on peut penser que Cavaillès était politiquement plus, je dirais, socialiste, social-démocrate, que ne l'était Lotman. Hein. C'est une des raisons, mais il y en a d'autres.
Dans les actes du colloque que vous avez organisé, il y a un texte de Jacques Lotman, le fils d'Albert Lotman, qui dénonce trois erreurs à propos de son père. La première, c'est que on le présente comme un disciple de Cavaillès. Il y avait des nuances entre les deux sur lesquelles on reviendra. Une autre erreur, c'est de dire que Lotman était communiste, ce que vous venez de rappeler. Et la troisième, c'est qu'il aurait été fusillé comme otage ou comme juif et non pas comme résistant.
Alors, je ne sais pas ce qu'on peut qualifier d'erreur. Parce qu'en réalité, nous, historiens, on travaille avec les archives, on a des raisonnements, on émet des hypothèses. Et donc, je pense que les trois choses que Jacques Lotman trouve inexactes mériteraient d'être retravaillées. On sait pourquoi, cette rumeur de communisme, c'est peut-être une explication à l'occultation de sa mémoire. Mais moi, je dirais qu'en réalité... Ni Cavaillès ni Lotman ne sont connus des historiens. Je pense qu'ils sont beaucoup plus connus des philosophes des mathématiques. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, l'association des amis de Cavaillès, telle qu'elle s'est créée après-guerre, s'est concentrée sur la figure de Cavaillès. Mais il est beaucoup moins connu que Jean Moulin. Ensuite, troisième raison proprement historique, Jean Cavaillès est allé à Londres. Et donc, il a rencontré le général de Gaulle. Quand on va à la Boisserie, il y a encore la statue qu'il a apportée à Londres et que visiblement le général a gardée toute sa vie puisqu'elle est vraiment à l'entrée de son bureau, de sa bibliothèque. Donc, Cavaillès a frappé, a marqué les esprits et je crois qu'il n'y a quasiment aucun mémoire de résistant qui ne l'ait croisé pendant l'occupation et qui ait oublié Cavaillès. La résistance de Lotman, elle est bien différente. C'est une résistance tellurique, c'est vraiment de terrain. Les responsabilités qu'il a eu son départemental et pas national. Il n'est pas allé à Londres. Il a fait partie de ces filières d'évasion qui nécessitaient une très grande connaissance du terrain, de très grands risques. Alors, il est évidemment accompagné avec des passeurs, des Espagnols. Et pour ce qui est de son exécution, comme on ne connaît pas les critères du choix, on connaît quand même la Weltanschauung nazie. Et on sait très bien que quand il faut désigner des gens de manière arbitraire à abattre, à assassiner, hein, parce que c'est de l'assassinat, il n'y a pas eu jugement, condamnation, etc. Donc on sait très bien que juifs, communistes, étrangers, socialistes, tout ça est amalgamé. Ils ne font strictement aucune différence. Donc il suffit d'avoir un nom à consonance pour être réputé juif, être dans les FTP pour être réputé communiste. Donc vous voyez, on ne s'embarrasse pas de ça, et surtout... à la date à laquelle il est exécuté, les Allemands exécutent beaucoup parce que voilà,
ils sont en panique.
Bien sûr, et puis ils sont attaqués aussi. Enfin, je veux dire, il y a des opérations de harcèlement contre les troupes allemandes. Ils ont la trouille, pour le dire bêtement, mais ils ont aussi un blanc-seing, un permis de tuer, et ils vont tuer.
Alors, j'ai rappelé qu'il a été arrêté le 15 mai 1944 sur dénonciation, je crois, arrêté par la Gestapo et exécuté le 1er août. Qu'est-ce qui lui est arrivé entre ces deux dates ?
Il a vraisemblablement été maltraité, interrogé. On ne sait pas ce qui s'est passé entre ces deux dates, tout simplement.
Il était mis dans un train, quand même, un fameux train fantôme.
Il a été envoyé en déportation, ce qui était, je dirais, la sanction d'une arrestation pour fait de résistance. Il se trouve que ce train devient le train fantôme justement parce qu'il y a une guerre d'embuscades, de coups de main. Et puis, il y a des plans, en fait, hein, des consignes qui arrivent de Londres. À partir du débarquement, donc le 6 juin, les troupes militaires, ou en tout cas les groupes, les corps francs résistants, ont l'ordre de bloquer un maximum de voies, tout simplement pour que les troupes qui sont stationnées dans le sud-ouest ou dans le sud peinent à remonter vers le front de Normandie. Donc, on comprend en réalité que ce train qui tourne en rond, bah, c'est parce qu'en fait, soit les voies ferrées sont obstruées, soit les gares sont détruites, soit il y a eu des bombardements. Et pour cette raison, ils partent de Bordeaux, ils passent en Charente jusqu'à Angoulême, ils reviennent. Et là, on maltraite. Hein, on maltraite tous ceux qui sont dedans. Ils sont laissés 3 jours, évidemment, sans soins, sans nourriture, dans des wagons. Et puis ensuite, on les fait sortir, on les enferme dans la synagogue. Et puis là, on en prend 10. On en fusille 10 totalement arbitrairement, parce qu'il y a des règlements de compte dans la région. Hein, il y a l'affaire Grand Clément, il y a des attentats contre les Allemands. Donc on est dans un cycle de vengeance, de scènes de guerre civile. Et tout l'été 44, c'est comme ça. Donc d'autres exécutions massives ont lieu. Ils vident les prisons. Hein, et ils les vident avec leurs critères, c'est-à-dire la terreur. Parce qu'il faut aussi terroriser les populations. Et donc voilà, il y a un cycle d'atrocités dont on ne parle pas assez, je trouve, et qui est très caractéristique de l'été 44. Et ce qu'il faut dire, on dit les Allemands ou la Gestapo, non, ajoutez les miliciens, les doriotistes, les bandes, les supplétifs. Donc voilà, tout ça est très dramatique. Donc moi, je n'aime pas qu'on invective les historiens en disant qu'ils font des erreurs. On raisonne, et surtout, on prend la responsabilité de ce qu'on écrit.
Alors... Jean Carrillas, il est entré en résistance par logique, disait-il. Est-ce qu'on peut dire la même chose d'Albert Lautmann ? Est-ce que le fait d'être mathématicien change le rapport qu'on peut avoir avec la résistance ?
Moi, je ne saurais pas le dire. Parce que nous, on peut reconstituer une certaine logique, mais est-ce que... Voilà, moi je vois, oui, une logique de l'engagement. Il se dérobe aucune de ses obligations de français, de... Il va jusqu'au bout et quand il est interné en camp, première chose à faire, il s'évade. Et il rejoint la résistance qui est beaucoup plus dangereuse que de rester dans un camp de prisonniers.
Oui, alors, Jean-Jacques Sézignat.
Peut-être Baptiste me complétera. C'est assez compliqué de reconstituer finement les motifs de l'engagement de Lautmann, comme ceux de Carrillas d'abord. Alors ce qu'on peut dire, c'est que... il y a évidemment une certaine rigueur que nous apportent les mathématiques. le raisonnement mathématique, mais ça ne fait pas pour autant un résistant, puisque vous avez de très grands mathématiciens qui étaient des nazis. Donc, je pense qu'à un certain moment, dans une configuration donnée, il y a une espèce de surgissement du sens, au sens linguistique, qui fait que on va s'engager dans cette direction-là. Et je pense que ça, c'est vrai, tant pour Lotman que pour Cavaillès. Et alors Lotman l'a fait méthodiquement, parce que c'était un résistant de terrain, très connaisseur de l'artillerie, du maniement des armes. Il était là-dedans, comme était un mathématicien rigoureux.
Elle a été décorée parce que son bataillon a abattu plusieurs avions allemands en juin 40.
Oui, tout à fait.
C'est ce qu'on dit.
C'est-à-dire, c'est pas prouvé par les historiens.
Mais non, on n'a pas de preuves. Mais enfin, en tous les cas, c'est ce qui est dit. Oui, oui, qu'il aurait sa batterie, en tous les cas, anti-aérienne, aurait descendu, je crois, 7 avions. Ça, c'est en 40.
En juin 40, oui.
Et alors, je pense que on a beaucoup épilogué sur le fait que Cavaillès s'est engagé parce qu'il était spinoziste. Il disait, je m'engage par nécessité, c'est nécessaire. Alors, Lotman n'était pas spinoziste au sens de Cavaillès. Mais je pense
qu'il était un peu quand même.
Ouais, il a, je pense qu'il y a cette espèce de moment de surgissement. Je vous dis, c'est comme quand on s'engage en politique pour tout un chacun. Il y a un moment où l'ensemble de la situation fait que on peut pas faire autrement. Hein,
oui,
ça dépasse la syntaxe, c'est une sémantique de l'engagement.
Si vous permettez, j'aime bien citer cette phrase de De Gaulle qui date du 3 août 40. Donc c'est pas le discours du 18 juin, mais c'est celui du 3 août qui est beaucoup moins connu et qui définit la résistance. Il dit voilà, c'est penser, vouloir agir suivant le rythme terrible des événements. Et il dit tout. Il dit exactement ce que c'est que résister. Alors ça peut s'appliquer évidemment à Albert Lotman, à Cavaillès et à tant d'autres. Penser, vouloir agir, mais c'est suivant le rythme terrible des événements, c'est-à-dire que chaque temps de la résistance a sa forme de résistance. Et c'est là qu'en fait, Lotman est un activiste qui va épouser les nécessités du moment et les possibilités offertes par le terrain. Mmh. Et c'est en cela qu'on peut reconstituer sa résistance dans une forme de raisonnement logique. Il s'est adapté. Mais la résistance est d'une très grande ductilité et c'est une adaptation perpétuelle. Et c'est pour ça qu'il a fait tant de choses, parce que il a participé à cette filière d'évasion Pat O'Larry, qui est l'une des plus importantes, en fait, hein, pour évacuer les pilotes tombés. Et vous savez ce que c'est, ce que vaut un pilote canadien, américain ou britannique. On l'a formé pendant des mois, voire des années. Et tombé, il faut les faire retourner par Gibraltar, en Angleterre, pour qu'ils puissent reprendre le combat. Et ça, c'était une filière organisée par l'intelligence service. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Il a fait partie de l'armée secrète, il a participé à l'organisation de résistance de l'armée, hein, qui est une émanation de l'armée d'armistice, qui est dissoute en fait en novembre 1942. Donc c'est quelqu'un qui a tout le temps évolué vers les priorités du temps de la résistance. Et c'est en cela qu'on reconstitue une forme de logique.
Baptiste Mélès, vous vouliez compléter ou ajouter quelque chose ?
C'est sur le rapport entre nécessité logique, mathématique, et puis la nécessité de s'engager dans la résistance, parce qu'on a effectivement très peu de textes qui l'attestent directement, et pour une grande part, ce sont des reconstructions postérieures, et qui elles-mêmes étaient engagées dans la situation de ce moment-là. Et en particulier, ce sont des interventions à la radio de Georges Canguilhem, dans lesquelles il a introduit ce parallélisme entre trois formes de nécessité. Il y a la nécessité logique qui est à l'œuvre dans les mathématiques. Quand un théorème est démontré, il est absolument indiscutable, il n'est pas possible qu'il en soit autrement. Il y a la nécessité métaphysique, qui est celle du fatalisme, qui fait que les choses se déroulent sans aucune marge de liberté. Et là, c'est le spinozisme. Et puis la troisième forme de nécessité, c'est la nécessité morale. Tu dois faire telle chose, tu dois agir ainsi. Et Canguilhem, lui, rassemble ces trois nécessités en disant que chez Cavaillès, elle faisait une seule.
Il l'a écrit après la guerre, cela.
Après la guerre, vers 1969, de mémoire.
C'est un hommage.
Et oui, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est le contexte dans lequel il fait ça. parce qu'à ce moment-là, c'est peu après la publication des Mots et les choses de Michel Foucault, et les existentialistes, avec Sartre en première ligne, se sont attaqués à ce livre en disant « c'est un système qui promeut le déterminisme, une forme de fatalité, et donc c'est pas avec des gens comme ça qu'on va agir, c'est pas ce genre de gens qui s'engagent dans la résistance ». Et ce que dit Guillaume en réponse à cela, c'est « où étaient les philosophes de la conscience pendant la guerre ?» Cavaillès, philosophe du concept, lui s'est engagé justement parce qu'il avait cette conception de la nécessité. Donc bien loin d'empêcher l'engagement, la nécessité, selon lui, favorisait l'engagement.
En décembre 1937, Albert Lotman soutient sa thèse en Sorbonne. Que contient-elle? Quelle thèse défend-il? Baptiste Mélès.
Alors il y a deux thèses, la thèse principale et la thèse complémentaire. Et la thèse principale s'intitule « L'essai sur les notions de structure et d'existence ». Et la thèse complémentaire, c'est « Essai sur l'unité des mathématiques ». Et la thèse principale défend principalement l'idée que les mathématiques ne sont pas un simple jeu formel. Ce n'est pas un jeu sur des symboles. Et en cela, Lotman s'oppose à la conception qu'il reproche à des auteurs du cercle de Vienne, des philosophes analytiques, comme Carnap, qui affirmait que, essentiellement, les mathématiques étaient un jeu sur des symboles et se résumaient à des tautologies, c'est-à-dire à affirmer la même chose. À affirmer
qu'une chose. Langage.
Oui. Et ce que veut montrer Lotman, c'est que les mathématiques sont directement quelque chose de plus profond, que leur fonction est de relier des idées abstraites qui sont des idées communes avec la philosophie, donc vraiment des principes très abstraits comme les notions de local et de global, d'essence et d'existence, etc. Et pour les relier, on utilise un formalisme. Mais le formalisme, qui est la partie observable, la partie visible, n'est pas l'essentiel des mathématiques.
Donc c'est-à-dire qu'il y a des objets mathématiques que le mathématicien découvre
Dont il montre les articulations.
Oui.
Est-ce qu'on a le droit de dire qu'il était donc platonicien?
Alors il était... il a une forme de platonisme, mais un platonisme très précis. Ce n'est déjà pas le platonisme de Platon lui-même, stricto sensu, puisque Platon, en mathématiques, n'a pas la thèse qu'il a pour la philosophie. Donc Platon n'affirme pas l'existence des objets mathématiques de la même façon qu'il affirme l'existence des objets et des idées comme le bien, la vertu, etc. Lotman n'est pas non plus platonicien dans le sens où on l'entend aujourd'hui souvent. Souvent, on parle du platonisme mathématique comme la thèse selon laquelle les objets mathématiques ont une existence transcendante. Et ça, on ne trouve pas cette thèse non plus chez Lotman. Lui, il est platonicien d'un sens très spécial qui est selon l'interprétation de Léon Robin. Donc, très peu de temps avant, il y avait eu les ouvrages de Léon Robin. Et c'est d'après cette interprétation qui est très spécifique et qui insiste sur la dynamique des idées. Pas la statique des idées selon lesquelles elles existeraient et elles attendraient qu'on vienne les découvrir, mais sur la façon dont elles s'organisent les unes les autres, les unes par rapport aux autres.
Mais est-ce que c'est ça qui l'oppose à Jean Cavaillès?
Alors Cavaillès n'est pas platonicien, donc en aucun des sens. Donc effectivement, c'est une des oppositions qu'il y a entre les deux.
Oui. Parce qu'ils ont eu des discussions, d'ailleurs, vous en parlez dans votre ouvrage. Il y a même eu l'organisation d'une discussion à l'École normale entre les deux.
À la Société française de philosophie.
Oui, donc c'est pas l'École normale, mais c'est quand même pas très loin. Et est-ce qu'on peut en ressortir l'essentiel?
Oui, alors, non, moi je formulerai comme Baptiste la question de... Lotman pense que... il existe des problèmes hein, au sens fort du terme, et le mot problème est plus important même que sa solution. Donc il insiste sur le fait que le problème insiste même dans sa solution. Et ces problèmes sont formulés en un certain sens par la philosophie sous la forme d'opposition. Le local, le global, des questions de l'intrinsèque et l'extrinsèque, etc. Donc la philosophie pose ces problèmes et... Il pense que les théories mathématiques qui se développent sont là pour essayer de développer, d'expliciter la nature de ces problèmes. Et donc, il va trouver, par exemple, le problème de l'existence, qui est un problème, il y a un concept philosophique d'existence qui est bien entendu très complexe. Et il dit, qu'est-ce que c'est que l'existence en mathématiques? Qu'est-ce que ça veut dire qu'exister pour un objet mathématique? Alors il va donner, et il y a un article célèbre, il dit, le caractère exceptionnel de l'existence en mathématiques. Et quant à l'intrinsèque et l'extrinsèque, c'est une opposition qui est formulée dans l'histoire de la philosophie, mais qui trouve des formulations, je dirais, plus concrètes, entre guillemets, dans les théories mathématiques. Alors moi, il y a un des articles, par exemple, l'absolu.
Montée vers l'absolu, c'est le titre.
C'est la montée vers l'absolu. Et là, dans cet article, alors la montée vers l'absolu, on ne peut pas faire plus métaphysique que ce titre-là. Et Lotman montre qu'il y a une analogie qui a été discutée, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, entre la montée vers l'absolu au sens théologique du terme, c'est-à-dire qu'on arrive vers l'être suprême, vers le Dieu, par négation des propriétés imparfaites pour arriver vers le parfait, et certaines grandes théories mathématiques qui dominent les mathématiques. Et en particulier, il y en a une qui est une des plus profondes et qui continue d'insister, si je puis dire, qui est la théorie de Galois. Et là, Lotman a donné des analyses de la théorie de Galois extrêmement profondes qui valent d'être reprises actuellement. Il y a quelque chose de parenté entre Galois et Lotman. Hein, bon.
Alors, il aimait citer Malebranche qui a écrit « L'étude des mathématiques est la plus pure application de l'esprit de Dieu ».
Oui.
Est-ce que c'est ça que vous voulez dire ?
Alors, en un certain sens, oui. Sauf que Lotman n'a jamais explicité, je dirais, une croyance théologique. Hein. Je dirais que... Alors, c'est difficile à expliciter. Je dirais qu'il y a une sorte de fonction syntaxique de la notion théologique de l'absolu dans les théories de Lotman. Hein. Par exemple, fonction d'unification, fonction de réalisation, fonction de maximum d'extension, etc., qui peut être synthétisé au sein, à l'aide de ce concept d'absolu.
Alors, il connaissait parfaitement la théorie des quantas, par ailleurs. Il connaissait les travaux de Louis de Broglie, il l'avait lu,
oui,
etc.
Bien sûr,
hein, il en a déduit un début de livre sur le temps, le problème du temps, dans lequel il fait la distinction entre deux formes d'irréversibilité, celle du temps même, et celle des phénomènes physiques, qui ne sont pas du tout les mêmes.
Oui,
autrement
oui.
dit, il distingue le cours du temps de la flèche du temps.
Et ça, on peut dire ça comme ça.
Ben, je le dis comme ça. En tout cas, il y a des phrases qui laissent entendre cela, puisqu'il écrit « Ces deux notions sont distinctes en ce sens que l'une concerne l'irréversibilité de ce que l'on pourrait appeler le temps pur, et l'autre l'étalement dans le temps, selon cet ordre irréversible, de l'avant et de l'après, des objets physiques de l'univers. »
Oui, bien sûr, il y a une dynamique du temps, hein, en tant que telle. Alors, il fait une distinction, il faudrait approfondir davantage, entre le temps paramètre et le temps comme porteur d'une dynamique. C'est pas les mêmes temps, bien qu'ils s'intersectent souvent. Et ce qui fait l'originalité de Lotman, même par rapport à Cavaillès, c'est qu'il avait pénétré des théories physiques très difficiles de son temps, en particulier la théorie des quantas, mais bien d'autres. Hein.
Mais quand on lit ces textes, est-ce qu'il y a beaucoup de phrases et quelques équations, beaucoup d'équations et peu de phrases? Enfin, comment est-ce que se fait la lecture des 400 pages qu'il a écrites sur ces questions? Baptiste Malès.
Alors, je dirais qu'il écrit assez bien du point de vue philosophique, parce que il y a des vrais morceaux de mathématiques dedans, des équations qui sont difficiles, mais qui sont imbriquées à l'intérieur d'un discours philosophique. Donc, on n'est jamais embrigadé dans les mathématiques sans savoir pourquoi il nous parle de ça. Donc, il explique pourquoi il va mobiliser ses mathématiques avant, et après son raisonnement mathématique, il en tire des conclusions qui sont vraiment des conclusions philosophiques. Donc il ne se perd pas dans son contenu.
Oui, on pourrait dire les choses. On peut dire que bon, quand les idées mathématiques descendent, quand les idées philosophiques descendent dans les mathématiques, elles les animent et elles montrent que les mathématiques sont porteuses de cette philosophie qu'elles animent. Et ça aussi, c'est différent de toutes les autres philosophies des mathématiques qu'on a pu rencontrer. Le fait qu'il y a, je dirais, une philosophie interne aux mathématiques et qui est motrice dans son intériorité, dans son internalité, des mathématiques mêmes.
Baptiste Mélès, vous voulez compléter, je vois.
Oui, pour revenir aussi au rapport avec Cavaillès sur l'opposition entre les deux. En un sens, Cavaillès est plus un philosophe de la genèse des constructions mathématiques, alors que Lotman s'intéresse beaucoup à la structure à laquelle elles aboutissent. Et donc, Cavaillès va étudier la dialectique, qui est une dialectique par laquelle les mathématiciennes et mathématiciens rencontrent des problèmes et ensuite trouvent les moyens de les résoudre, ce qui mène les mathématiques d'un certain état à l'état ultérieur. Alors que Lotman s'intéresse beaucoup à la façon dont les théories en elles-mêmes s'organisent les unes par rapport aux autres, se mobilisent parfois. Donc parfois, il y a des noms de domaines mathématiques, comme géométrie algébrique. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes qui vont être transposées d'un domaine des mathématiques vers l'autre. Et il y a beaucoup de disciplines mathématiques comme ça qui s'enrichissent les unes les autres. Et ça, c'est un procédé auquel Lotman est très attentif à un moment où ce procédé s'apprête à devenir vraiment massif dans les, comme il l'est.
Mais ce n'est pas des points de vue contradictoires, ils sont plutôt complémentaires, non ?
On peut être cavaillessien et lotmanien, à mon avis.
Oui. D'ailleurs, ils font référence l'un à l'autre. Hein. Il y a des articles de Cavaillès où il fait référence à Lotman. Il renvoie à Lotman pour tel et tel...
Mais ils étaient amis.
Oui, ils étaient amis. Mais dans la discussion qu'ils ont eue, la différence, c'est que Lotman, d'après Cavaillès, fait intervenir la philosophie et considère que la philosophie va intervenir, y compris même de l'extérieur, quand elle descend dans les mathématiques, alors que pour Cavaillès, elle naît de l'expérience même des mathématiques. Et Cavaillès dit « je ne sais pas lequel de nous deux a raison, et l'histoire tranchera ».
Est-ce qu'elle a tranché, à votre avis ?
Je ne crois pas.
Alia Aglan, est-ce que Cavaillès et Lotman... Pendant la guerre, donc durant la résistance qu'ils ont menée l'un et l'autre, ils ont collaboré, ils se sont vus, est-ce qu'ils ont participé à des activités de résistance communes ?
Alors ça, je ne crois pas, parce qu'ils n'étaient pas dans les mêmes organisations. Hein. Ce que pratique Lotman, c'est il participe à cette ligne d'évasion qui s'appelle le réseau Patolari, alors que Jean Cavaillès va faire partie des fondateurs de Libération Sud, puis de Libération Nord, et ensuite il est chef du réseau Cohorse. Et ensuite, dans Cohorse, il va fonder ses GRAC, ses groupes d'action, et bon, il devient saboteur. Donc c'est sans doute pour ça, d'ailleurs.
Il devient l'agrégé du sabotage.
Voilà ce qu'on a appelé l'agrégé du sabotage. Mais je trouve que le rapport commun entre les deux, et ça les lie à l'ensemble des résistants, c'est que le geste de la résistance, c'est justement de défaire le temps, c'est-à-dire de le rendre réversible. Puisque la défaite, c'est un constat qui n'est pas valide pour les résistants, puisque justement, ils veulent défaire la défaite par l'action. C'est-à-dire, voilà, ils ont constaté la défaite, mais elle n'est pas perpétuelle. Elle n'est pas,
pas
définitive. Voilà, elle n'est pas définitive. Ils ne la reconnaissent pas comme vérité. Donc, tout résistant, d'une certaine manière, œuvre à inverser le cours du temps. Et évidemment, la foi dans la victoire, c'est aussi leur point commun. Mais le point commun qu'ils ont de très frappant, c'est qu'en fait, ils se jettent à corps perdu dans la résistance. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune forme de prudence. Enfin, bien sûr que si, les consignes sont les consignes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne font pas l'économie de leur capacité intellectuelle. Ils vont vraiment au-devant du danger. C'est pour ça, en fait, qu'ils suivent les priorités du moment.
Oui, ils font preuve d'un très grand courage physique. Mais oui. Est-ce qu'on a une idée de ce que fut leur personnalité, notamment pour Lotman ? Pour Cavaillès, il y a davantage de témoignages, mais pour Lotman, quel genre d'homme était-il dans la vie quotidienne, disons ?
Dans la résistance, alors elle n'est pas très documentée, hein, la résistance de Lotman, précisément pour ce que j'ai dit, c'est qu'il n'a pas eu de fonction éminente qui aurait donné des sources, parce qu'en fait les sources, c'est le bureau central de renseignement et d'action de Londres. Il aurait été envoyé à Alger, il se serait exprimé à l'Assemblée consultative d'Alger. Bon, on aurait sa parole. Là, vraiment, on n'a pas sa parole. On a les témoins qui l'ont côtoyé. On a évidemment les dossiers d'homologation, mais c'est quand même assez sec, hein, y a pas de récit. Je trouve que ce qui le permet de l'identifier, c'est finalement ce qu'ils s'écrivent avec Cavaillès, quand KVS est en prison, bah, c'est quand même Albert Lautmann qui demande de lui apporter. Voilà, oui, parce que ça, KVS est sur une plage, l'opération Narbonne, là, qui a tourné très mal, hein, l'opération Leda 2. Il essaye de partir par une opération maritime en Angleterre. Il est à la prison militaire de Montpellier et c'est Lautmann qui va lui apporter
des livres.
Et puis ils échangent un petit peu et KVS lui dit. J'ai plus les termes exacts en tête, mais il lui dit, tu sais que les conversations avec toi me sont très importantes. Et c'est en cela, je pense qu'il partage une sorte d'esprit. Et c'est comme ça que j'arrive intuitivement à m'imaginer quelle était la personnalité de Lautmann. Et à un moment donné, il lui dit aussi, nous sommes trop jeunes, mais en fait, on aurait peut-être dû partir combattre en Espagne, en 36. Mmh. Donc, voilà, en fait. Je pense que connaître l'un, c'est connaître l'autre. Parce que je crois que là, enfin, au-delà de leur débat philosophique, je pense qu'il y a une profonde amitié.
Il y avait une différence, c'est que Lautmann avait une famille, ce qui n'est pas le cas de Jean Cavaillès. Comment s'est organisé...
Pas de famille connue.
Enfin, comment s'est organisée la vie de famille de Lautmann pendant la période de la Résistance?
Je serais bien incapable de le dire.
Non, on ne peut pas le dire. Simplement, il y a le livre de son fils qui est paru, qui s'appelle « Ai-je manqué de père ?»
Qui est paru il y a un an aux éditions oui. Hermann.
Et là, il y a pas mal de témoignages sur la, je dirais presque la vie de famille. Hein. Il y a des photos où ils sortent avec les enfants en vélo, etc. Donc, il avait une vie de famille tout à fait... j'ose pas dire normale, mais une vie... c'était quand même un bon père de famille. Ça fait de bons résistants aussi.
De même que la fameuse filière d'évasion Patolari, elle est reprise par une dame dont le pseudonyme est Françoise, donc ça devient le... Mais c'est un peu la mère tranquille, hein. C'est une commerçante de 60 ans qui va animer l'une des plus grandes filières
d'évasion.
Insoupçonnable. Et voilà, qui reste dans la clandestinité pendant toute la guerre.
Est-ce qu'on peut... faire une sorte d'expérience de pensée. Imaginons que Lautmann ait survécu à la guerre. Quel rôle aurait-il joué après ces années terribles dans le système éducatif, dans l'évolution des mathématiques, de la philosophie mathématique? Est-ce qu'on peut en avoir une idée?
Oui, peut-être.
Baptiste Malès.
Peut-être que ça aurait changé le visage de la philosophie d'après-guerre, qui a été dominée par le débat entre existentialisme et marxisme. Et il y aurait peut-être eu tout un pan de philosophie qui utilise des méthodes rigoureuses de la logique et puis qui débat d'objets mathématiques, qui est aussi bien intégré internationalement, parce que Lautmann discute avec Tarski, Carnap, etc. Et donc peut-être que la France aurait été moins isolée à ce moment-là, parce qu'ensuite l'harmonisation avec le débat international s'est faite assez tard.
Moi, j'irais même plus loin. Je pense que c'est peut-être un peu... Je pense que ça aurait changé l'enseignement même des mathématiques. Parce que je vois... Dans le livre, on a fait l'expérience de donner à des mathématiciens professionnels... J'aime pas beaucoup ce terme de professionnel, mais à des mathématiciens qui font des maths tous les jours, quoi, à lire Lautmann. Et ils ont découvert... ils étaient très surpris pour un très grand nombre d'entre eux. Et ils ont découvert, là, une philosophie qui leur parlait. Et qui leur parlait aussi des mathématiques.
Et qu'ils ne connaissaient pas.
Non.
Baptiste Mélès.
Mais cette réception par les mathématiciens, elle a été faite très tôt, à la Société française de philosophie en 1939, et à Fréchet qui est là, et Ressmann, et ils sont très intéressés. Et même la philosophie de Lautmann leur parle plus directement que celle de Cavaillès, parce que Lautmann décrit vraiment la façon dont ils sont en train de travailler, eux. Et ensuite, le retour de Lautmann, donc, qui a été occulté, comme vous l'avez dit, en 1968, Lautmann est évoqué par Gilles Deleuze dans différentes ses répétitions. Mais ensuite, c'est aussi grâce à Maurice Loy qui publie le volume d'intégrale des textes de Lautmann. C'est grâce à cela que l'on peut se remettre à lire Lautmann et qu'ensuite, il a été à nouveau étudié avec des auteurs comme Jean Petitot, Ria Benissi-Nasseur, Gerhard Heinzmann, etc. Donc c'est grâce aux mathématiciens que son œuvre est encore vivante. Et dans le volume qu'on a publié, la troisième et dernière section est consacrée à la réception de Lautmann par des mathématiciens d'aujourd'hui.
Allez, Aglan.
Oui, j'ajouterais surtout qu'il aurait eu le droit d'enseigner à nouveau, puisqu'il a été révoquée par Vichy en 42. Cause voilà, du statut des Juifs. Et c'est une résistance de réprouver. Hein. C'est un double ennemi quand même. Hein. Et je pense qu'il aurait sans doute peut-être repris ce poste à Fénelon qu'il n'a pas pu tellement occuper, hein, puisqu'il était nommé en 39, hein, si je me souviens bien. Et donc il aurait eu, et sans doute pour le bonheur de tout le monde, la possibilité d'être rétabli dans ses droits et d'enseigner.
Mais Jean-Jacques Seignard, vous disiez que il aurait changé la façon d'enseigner les mathématiques. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire si on adhère à sa philosophie, qu'est-ce que ça change dans la façon d'enseigner les mathématiques au collège, par exemple, au lycée ?
Alors, au collège, même au collège, c'est-à-dire... moi, j'ai fait cette expérience quand on m'avait demandé sur des programmes de poser comme sujet « Qu'est-ce qu'un bel objet ?» En mathématiques, qu'est-ce que c'est qu'un bel objet ? Et avec les concepts que nous fournit Lotman, on peut dire ce que c'est qu'un bel objet. Hein, ce que c'est qu'un bel objet en mathématiques. Et tout ce qui est fascinant dans les mathématiques et que qui manque d'expressivité dans les philosophies en général, c'est, vous voyez, Lotman a rendu plus vivante,
plus excitante
les mathématiques. Et je pense que ça aurait certainement ramené tant d'élèves qui sont dégoûtés, dissuadés par le formalisme des mathématiques.
Baptiste Maes, vous êtes d'accord ?
Parfaitement, oui.
Parce qu'il y a, comment dire, il y a une manière traditionnelle de rapporter la philosophie de Lotman, qui est de le situer par rapport à d'autres philosophies des mathématiques, la philosophie analytique, ou bien... là, on dit que Lotman est un de ceux qui ont promu de façon explicite la notion de structure en mathématiques, la notion de structuralisme, c'est-à-dire que les mathématiques ont affaire à des structures. Mais quand on dit ça, évidemment, ça peut être encore plus rébarbatif pour quelqu'un qui sait. Mais si on suit ce que veut dire Lotman par là, petit à petit, on se familiarise avec des théories compliquées. Hein, la théorie de Galois...
Alors, je suis pas du tout spécialiste de ces questions, mais il me semble que Lotman s'est plus intéressé à la physique que KVS.
Oui, c'est peut-être des raisons de circonstance, ça je sais pas. Oui, parce que...
Mais est-ce qu'il a une thèse sur la façon d'expliquer l'efficacité des mathématiques en physique, par exemple ? D'où vient que, en écrivant des équations, on donne à la physique un langage qui a l'efficacité qu'on constate.
Mais parce que, alors, là-dessus, il y a beaucoup de thèses, il y a pas mal de raisons qu'il faudrait développer davantage. Il montre que, alors, au fond des équations, il y a déjà la physique qui est là. Et donc, il a une manière d'aborder ou de présenter des équations de la physique. Bon, évidemment, si on s'attarde à la technique, comme on dit, c'est pas beau la technique, mais si on s'attarde à la manière de manipuler ces objets, petit à petit, on se rend compte qu'ils portent la physique aussi. Ils sont pas à séparer de la physique elle-même. Hein, le calcul qui représente une espèce de monstre dissuasif pour les non-mathématiciens, on peut le présenter tout à fait autrement et voir dans un calcul, si compliqué soit-il, une stratégie, une argumentation, expliquer pourquoi on met les lettres dans cet ordre, pourquoi on utilise des minuscules, pourquoi on utilise des lettres grecques, et qu'est-ce que ça fait d'utiliser des lettres grecques et tout ça. Mais toutes ces questions-là, Lotman nous donne les moyens d'y répondre. Et ça intéresse les élèves, bien sûr.
Mais c'est quand même pas banal de faire des études de philosophie, d'obtenir l'agrégation de philosophie, et d'être aussi fort en mathématiques. C'est quand même... pas tous les jours qu'on rencontre de tels...
Certainement. Bah, je veux dire, ça conforte sa propre thèse. Ça veut dire que on peut trouver dans la philosophie de quoi faire des mathématiques.
Moi, j'avais été frappée à lire ce que j'en ai compris, parce que je ne suis pas du tout ni philosophe ni mathématicienne. J'avais compris qu'il avait envie aussi de faire entrer le problème mathématique dans les problèmes généraux.
Oui, bien sûr.
Et ce serait bien qu'on développe cette idée, parce que elle est évidemment très en écho avec la résistance. C'est que les problèmes dont Lotman veut parler, exposer, voire résoudre, ne doivent pas être coupés de la vie. Et donc,
il m'a semblé que dans ce sens.
Voilà, oui. Dans ce sens que ça devait être aussi pour la société, pour l'action, quelque chose qui était susceptible d'être repris. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec...
On peut penser avec les mathématiques autre chose que les mathématiques.
Exactement.
Qui sont quand même les mathématiques.
Mais ça ne veut pas dire que tout est mathématique quand même.
Non, mais les problèmes qu'il avait envie de traiter, enfin, c'est ce que j'ai compris. Hein.
Baptiste Malès, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, une autre raison de ses compétences en mathématiques, c'est aussi qu'il a su très bien s'entourer et très tôt, puisqu'il y a son ami Jacques Herbran qu'il a effectivement rencontré au lycée Condorcet et qu'il a ensuite suivi à l'École normale supérieure. À l'École normale supérieure, il a pu côtoyer tous les futurs membres de Bourbaki. Il a assisté au séminaire de Gaston Julien, ce qui lui permettait de se renseigner en direct sur les mathématiques qui étaient vraiment en train de se faire. Donc il a trouvé les meilleures sources disponibles à l'époque.
Je crois que, je dirais autre chose, moi, enfin, bon, qui a là dans le même sens, c'est que, comment dirais-je, Lotman, c'est un philosophe qui nous montre qu'il ne faut pas avoir peur des mathématiques. Parce que les mathématiques exercent une forme de terrorisme dans la culture, et il démystifie ce terrorisme parce que il a les mots, la terminologie, et il montre que ce sont de vrais problèmes. Moi, je peux prendre de très nombreux problèmes de ce genre. En mathématiques, il y a un problème qui existe dans toutes les mathématiques, problème de la finitude. Il faut qu'on arrive à démontrer que quelque chose est fini. Quand on veut faire une démonstration, quand on a enfin réussi à démontrer que c'était fini, on est content. Hein, mais ce problème de la finitude, il dit quelque chose sur les mécanismes de réflexion. C'est-à-dire que pour maîtriser les concepts beaucoup plus généraux, on a besoin d'une forme de finitude. Et dans un certain sens, on a peur de l'infini. Et là aussi, Lotman a des choses à dire sur l'infini.
Cavaillès aussi.
Oui, bien sûr. Alors, il a rencontré évidemment des obstacles et des opposants, hein, Lotman, même dans sa philosophie et même dans son entourage. Hein. On sait que comment André Weil n'était pas très, très favorable. Hein.
Non, mais quand on lit votre livre, donc, qui résulte du colloque organisé en 2021, on a l'impression qu'à cette époque-là, les débats sur les mathématiques étaient intenses.
Oui.
Il y avait des écoles et ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans la même situation ou est-ce que l'efficacité des mathématiques a finalement laissé un peu derrière elle la question de l'interprétation du statut.
Je ne sais pas ce que pense Baptiste sur cette question. Je pense que la philosophie s'est déplacée sur d'autres questions qui restent artificielles par rapport à la concrétude des mathématiques, à la pratique concrète des mathématiques. Et donc, on se pose plus ce genre de questions, mais il y a des questions qui peuvent être intéressantes en soi, mais qui nous éloignent de la pratique mathématique. Ce qui fait que souvent, et parfois de façon exagérée, les mathématiciens au travail se moquent de certaines philosophies qui pour eux, n'a pas de sens. Et je crois que là, c'est aussi quelque chose d'important chez Lotman, c'est que sa philosophie a du sens pour les mathématiciens. Hein, et qu'ils l'ont reconnu pour une part importante.
Faisons une deuxième expérience de pensée. Qu'est-ce qu'on est capable d'imaginer ce que Albert Lotman penserait aujourd'hui, s'il revenait parmi nous, de l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'à partir de ce qu'il a écrit, on peut déduire des jugements qui s'appliqueraient à cette sorte de révolution ? Je vois lever les yeux au ciel et donc je suis inquiet.
J'ai aucune idée.
Ben c'est là aussi c'est difficile. C'est si vous moi je crois qu'il y a dans bon je veux pas être trop prétentieux mais je crois qu'il y a dans l'intelligence artificielle évidemment des formes de pensée extrêmement intéressantes. Il y a actuellement des nouveautés etc. Mais je crois que l'intelligence artificielle dévoile met à l'œuvre montre un certain nombre de mécanismes de pensée. Et je crois que ces mécanismes de pensée, parmi ceux-là, il y a la notion de réflexivité, la notion d'autoréflexivité, la notion d'autocontrôle. Et ces formes, ces mécanismes de pensée sont à l'œuvre dans les mathématiques, mais à plein dans l'intelligence artificielle.
Oui, c'est vrai que quand on regarde les différentes sortes de réseaux de neurones, par exemple, on voit qu'on peut les percevoir comme la capacité de l'esprit de synthèse avec ce qu'on appelle les encodeurs, ou bien d'analyse avec ce qu'on appelle les décodeurs, ou bien de génération et de critique avec les GAN, les GAN, Donc il y a les machines avec attention, et c'est vrai que tout cela, on peut le voir comme des analyses qui sont faites par l'esprit humain de lui-même, en s'objectifiant dans des objets, des modèles qui effectivement sont informatiques. Donc l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence humaine qui se regarde elle-même à travers ce que Gérard Chazal appelle le miroir automate.
Alors, je vais poser la même question à chacun d'entre vous, ça sera sans doute la dernière, mais vous avez tous participé à ce colloque sur Albert Lotman en 2021, vous, Alia Aglan, en tant qu'historienne, vous deux en tant que philosophe des mathématiques. Est-ce que, entendant les exposés des uns et des autres, vous avez eu l'impression d'avoir affaire au même homme, un homme unifié, à la fois dans ses activités de philosophe, de mathématicien, de résistant, ou bien est-ce que vous avez eu un rapport, disons, clivé?
Moi, j'ai été,
personnage.
J'ai été passionnée par tout ce que j'ai entendu. D'ailleurs, j'ai assisté à l'ensemble du colloque, alors que je crois que j'étais la seule historienne. Tellement ce que j'ai cru comprendre de ce qu'on explique de la pensée de Lotman peut être mis en écho avec l'activité résistante générale, pas seulement la sienne. Mais en vous écoutant tout à l'heure parler de l'IA, je me suis dit qu'il faudrait commander à l'IA une biographie de Lotman et voir le résultat. Parce qu'en réalité...
Mais il y a un besoin de source, homme, s'il n'y a pas de source.
Cet homme attend encore une biographie, voire des thèses et...
Mais c'est pas l'IA qui peut la faire.
Non, évidemment, mais c'est pour tester, c'est en fait pour faire un stade de connaissance, je dirais même juste historique. Hein. Ça, ce serait déjà un test intéressant à faire.
Mais là, vous voyez quand même que, si je constate encore la façon dont on a discuté, dont on a échangé, comme on dit, ben, on a indissociablement parlé et de la résistance de Lotman, et de sa réflexion philosophique, et de ses mathématiques. Donc, s'il y a quelque chose qui doit ressortir, c'est une forme d'unité, hein, qui... Et les côtés différents se renforcent les uns les autres. Il y en a qui sont à la traîne, d'autres qui vont se développer. Et je crois que ça, c'est... Si vous voulez, je crois que Lotman, pour moi, Lotman nous aide à replacer au plus haut degré les mathématiques dans la culture humaine. Et ça, c'est quelque chose qui est... faut pas avoir peur de... Enfin, j'ai pas peur de le dire.
Mathis Semelès, vous avez le mot de la fin, quasiment.
C'est vrai que Cavaillès, comme Lotman, a ce rôle de modèle dans les deux domaines, à la fois le domaine moral et le domaine de la rigueur et de l'exigence scientifique. Et même si ensuite, techniquement, on peut débattre de tel usage qu'il fait de telle notion mathématique, de la rigueur exactement de son exposition, etc., le programme de recherche qu'il lance, lui, est encore fécond, aussi bien que son message moral et politique.
Est-ce que vous connaissez l'anagramme de Le Résistant à Berlotman?
Non.
C'est un testament brillant à saluer. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous remercie tous les trois d'être venus à la conversation scientifique. C'était donc, alors je recommande la lecture de ce livre, Albert Lotman, philosophe des mathématiques à la résistance, qui vient de paraître aux éditions de la Rue d'Ulm. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la réalisation et à la mise en onde, Souad Boukorsa.